Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Richard Decaize.
Chers amis, bonjour. Nous allons avoir une matinale chargée ce matin et intéressante. Flicage général des produits de toutes sortes grâce au passeport numérique des produits. Nous en parlerons avec Emmanuel Darle. Nous enchaînerons avec Arnaud Benedetti dans le grand entretien. Nous reviendrons sur la présidentielle qui est lancée. Qui a ses chances? C'est une question passionnante. La manifestation de Tommy Robinson par notre envoyé spécial Maïlys Clausel qui était à Londres. Et enfin, nous débattrons avec Alexandra Allégret-Pilot de la crise énergétique, aussi bien du prix de l'essence que de la loi Hulot. Et enfin, nous conclurons avec Régis Le Sommier qui, dans son analyse, nous parlera de la Chine. Est-elle en train de prendre le pouvoir? Voilà, nous sommes le 18 mai 2026. C'est une date importante. En effet, la Légion sautait sur Colvézi dans les années 70 et au tout début du 21e siècle, Alexandre de Galzin naissait. Voilà, les grands siècles sont précédés de grands signes. Merci beaucoup d'être avec nous et tout de suite, un mot d'actualité avec Magda Dautefeuille.
Bonjour Richard et bonjour à tous. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi dans les rues de Londres à l'appel de Tommy Robinson, figure du camp anti-immigration et anti-islam au Royaume-Uni. Une mobilisation massive sous une marée de drapeaux britanniques, alors que l'immigration, l'insécurité et la liberté d'expression sont sous tension croissante partout sur nos territoires. La police britannique avait déployé un dispositif colossal, 4000 policiers, drones, hélicoptères, véhicules blindés et même pour la première fois dans une manifestation, des caméras de reconnaissance faciale en direct. Les autorités craignaient des débordements qui n'ont pas eu lieu. Oh. Sur scène, Tommy Robinson a dénoncé la situation migratoire du pays. Des représentantes du collectif Nemesis étaient également présentes. Le pouvoir britannique, lui, continue de diaboliser cette mouvance. Keir Starmer a qualifié les organisateurs de voyous et de racistes, pendant que plusieurs personnalités étrangères favorables au rassemblement se voyaient interdire l'entrée sur le territoire britannique, notamment un eurodéputé polonais ou encore un nationaliste flamand. Cette manifestation révèle surtout que des dizaines de milliers de Britanniques et autres Européens refusent désormais de devenir étrangers dans leur propre pays. Notre journaliste Maïlys Clausel était sur place et vous en parlera dans un instant à 8h.
Et nouvelle enquête sur le périscolaire parisien.
Et oui, le parquet de Paris enquête désormais sur des agressions sexuelles sur enfants et violences dans 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires et une dizaine de crèches parisiennes. Un chiffre considérable confirmé ce dimanche par la procureure de Paris, Laure Becquiau. Trois informations judiciaires ont déjà été ouvertes. Cinq personnes sont convoquées devant le tribunal correctionnel et un animateur a été placé en détention provisoire. La brigade des mineurs est débordée avec un nombre considérable de dossiers en attente, selon la procureure. Le nouveau maire socialiste de Paris, Emmanuel Grégoire, parle désormais lui-même d'un problème systémique. Il était temps de s'en rendre compte parce que oui, notre journaliste Julie Solveig avait rapporté à notre antenne que ce scandale avait pourtant été révélé mais avait été enfoui pendant plus de 10 ans. Et malgré cela, certains syndicats dénoncent encore une prétendue politique de répression contre les animateurs, comme si le vrai problème aujourd'hui, ce n'était pas d'abord la protection des enfants. Et encore, on ne parle pas des problèmes dans les écoles, collèges et lycées de l'éducation nationale.
Et oui, il n'y a pas qu'à Paris, c'est sur tout le territoire. Gérald Darmanin est attendu en Algérie.
Et oui, Gérald Darmanin se rend aujourd'hui en Algérie pour tenter de relancer la coopération judiciaire avec le régime de Tebboune, notamment sur les dossiers liés au narcotrafic et à la DZ Mafia. Sa parade a pour but d'obtenir quelques extraditions et montrer qu'il sait encore faire avancer les choses. Mais derrière ce déplacement, il y a surtout une opération politique personnelle. Dans un gouvernement à l'arrêt, Gérald Darmanin veut apparaître comme l'homme efficace à un an de la présidentielle. Et pour cela, il prend déjà ses distances avec la ligne de Bruno Retailleau en expliquant que crier très fort contre l'Algérie ne servirait à rien. Autrement dit, retour des concessions, du dialogue permanent et des courbettes diplomatiques face à un régime qui humilie pourtant régulièrement la France. Le problème, c'est qu'à force de vouloir préserver à tout prix la relation avec Alger, c'est encore et toujours la France qui donne le sentiment de devoir s'excuser en permanence. Écoutons le député de Moselle et porte-parole du RN, Laurent Jacobellier, réagir sur France Inter.
C'est la fermeté dans le langage diplomatique et mettre des conditions. Voilà. Vous voulez ne pas reprendre vos OQTF, alors plus de visas. Alors, plus de soins gratuits pour les dirigeants algériens.
Réviser les accords de 68, c'est d'ailleurs réviser, ce que
mais voulez. L'Assemblée nationale a demandé à ce qu'on arrête ces accords de 68. L'Assemblée nationale, la
oui,
représentation des Français, le texte a été voté.
Qui n'est grâce, que symbolique, puisque c'est une proposition de résolution.
Grâce au Rassemblement national, rien n'a été fait. Arrêtons la diplomatie de la courbette. Essayons la diplomatie de la fermeté. En général, ça marche.
C'était Laurent Jacobelli.
Et il y a eu des tags anti-chrétiens sur une école.
Effectivement, alors que le pape confirme sa venue fin septembre en France, à Issoire, dans le Puy-de-Dôme, une école catholique a été visée par des tags haineux dans la nuit de vendredi à samedi. Sur les murs de l'institution Sévigné-Saint-Louis, des inscriptions ouvertement signées Antifa, Nia raciste ou encore une référence vulgaire vis-à-vis du pape ont été découvertes par les équipes de l'établissement. L'école participe actuellement à la rénovation d'une chapelle du 19e siècle attenante au bâtiment avec une collecte de dons soutenue par la Fondation du patrimoine. Pour les responsables de l'établissement, il ne fait guère de doute que ces dégradations visent directement cette initiative chrétienne et patrimoniale. Le président de l'organisme de gestion de l'école dénonce des faits intolérables tandis que les bénévoles de l'association parle clairement d'un acte anti-catholique. Plus de 1000 élèves fréquentent cet établissement qui accueille des enfants de toutes confessions. Et comme souvent, silence quasi total autour de ces actes anti-chrétiens en hausse constante depuis plusieurs années. Imaginez un instant l'ampleur médiatique et politique si des slogans comparables avaient visé une autre religion.
Nous ne comprenons pas, mais un petit mot de sport peut-être.
Oui, alors beaucoup de choses ce week-end, mais petit tour du côté du handball où les Dijonnaises ont remporté la Ligue Européenne Féminine, le premier grand titre de son histoire à domicile et devant les tenantes du titre allemand de Thuringer avec le score serré de 29 contre 25.
Voilà, ça nous console du rugby féminin. Un petit mot du temps.
Bien aujourd'hui, les éclaircies s'imposent près de la Méditerranée et sur le sud de l'Aquitaine. Partout ailleurs, le temps reste très nuageux et frais avec quelques averses. Côté température, nous attendons pour les maximales de 14 à 22 degrés du nord au sud, avec notamment 14 à Brest, 15 à Paris, 18 à Bordeaux et jusqu'à 22 degrés à Montpellier. Et nous célébrons ce 18 mai Saint-Éric, Sainte-Fanny, Sainte-Euphrasie, Sainte-Claudia et Saint-Dioscor, qui est saint mort martyr décapité pour avoir refusé de se sacrifier aux dieux.
Parfait. Enfin...
De sacrifier aux dieux plutôt. Oui,
merci beaucoup Magda.
Ligne droite.
Et bonjour Alice, vous allez nous parler d'énergie.
Oui, en effet. Alors, en quelques années, l'Europe a simplement changé de dépendance. Nous sommes passés d'un gaz russe bon marché par pipeline à du GNL américain beaucoup plus cher livré par bateau. Selon la Tribune, les importations de GNL américain sont passées de 28% en 2021 à 58% en 2025. Le gaz russe a été massivement remplacé. D'abord, les États-Unis n'ont jamais caché leur objectif de longue date. Dès 2014, Barack Obama invitait l'Europe à réduire sa dépendance au gaz russe. En février 2022, Joe Biden déclarait sans ambiguïté que si la Russie envahissait l'Ukraine, il n'y aurait plus de Nord Stream 2, un pipeline qui acheminait le gaz russe vers l'Allemagne. Quelques mois plus tard, en septembre 2022, ces gazoducs étaient sabotés en mer Baltique. L'enquête n'a jamais abouti à une conclusion officielle claire. Résultat, un coût financier exorbitant, le GNL américain est significativement plus cher que le gaz russe livré par pipeline. Facture énergétique plus élevée, industrie moins compétitive, inflation importée. L'Europe paye aujourd'hui le prix d'une sécurité énergétique qui ressemble étrangement à une nouvelle dépendance. Ensuite, une perte de souveraineté. Nous avons troqué un fournisseur avec lequel nous avions des relations commerciales anciennes contre un fournisseur dont les intérêts stratégiques ne coïncident pas plus avec les nôtres. Le gaz russe pouvant être coupé, le GNL américain aussi, si les priorités de Washington changent un jour. Et du point de vue de la France, une première étape ne consisterait-elle pas à abroger la loi Hulot, cet ancien animateur télé devenu ministre qui interdit depuis bientôt 10 ans la recherche et l'exploitation des hydrocarbures. D'ailleurs, contre l'avis du gouvernement, le Sénat a voté jeudi dernier la proposition de loi du sénateur Georges Patient pour permettre la reprise de l'exploitation des hydrocarbures en Outre-mer. Un premier signal. Mais nous reparlerons de la loi Hulot avec Algeret Pilot à 8h15. Il est temps aujourd'hui que l'Europe et la France retrouvent une stratégie énergétique souveraine, réaliste et au service de nos intérêts. Parce qu'une Europe qui paye plus cher pour moins de liberté n'est pas une Europe qui avance, c'est une Europe qui s'appauvrit.
Merci beaucoup Alice.
Ligne droite. Debout les Français.
Et Debout les Français, c'est avec Emmanuelle Darles, enseignante-chercheuse à l'université, spécialisée en modélisation et simulation informatique, que nous avons plaisir à retrouver ce matin. Bonjour Emmanuelle.
Équipe de Radio Courtoisie, merci de m'accueillir.
Et, merci d'être avec nous. Et donc nous allons parler d'un produit génial, le Digital Product Passport, ou autrement dit le passeport produit numérique, une idée de l'Union européenne qui permet de faciliter l'accès à l'information sur un produit mis sur le marché européen sans liaison, tout au long de son cycle de vie. En fait, ça signifie que désormais, chaque objet qui circule dans l'Union européenne, qu'il s'agit d'un objet de première main, de seconde main, de troisième main ou de énième main, a une identité numérique fixe qui le suivra toute sa vie.
Alors tout à fait, c'est en fait un texte de la Commission européenne, d'abord une idée de la Commission européenne qui a été votée par le Parlement en 2024. Porté principalement par les groupes Renew et puis bien sûr de gauche, les écologistes, et qui rentre donc en vigueur à partir du mois de juillet, puisque le 19 juillet 2026 sera la date à laquelle un registre européen pour l'ensemble des produits sera donc implanté au niveau de l'Europe. Donc chaque produit aura soit un QR code, soit une puce, et ça permettra soi-disant, donc, de pouvoir traquer ce produit, de pouvoir notamment identifier son empreinte carbone et puis de constituer un espèce de registre, un cadastre mobilier des produits que vous possédez.
Alors, puisque, quand on parle de produits, on parle bien de la moindre cafetière, la moindre tasse, la moindre soucoupe, la moindre cuillère, tous les produits.
Oui, la vieille paire de chaussures que vous vendez sur Vinted, le moindre jouet que vous achetez à votre enfant, tous les produits, alors bien sûr, hein, les meubles, l'électroménager, les batteries. Et si vous regroupez ça, si vous croisez ça, parce que l'écosystème le permettra, si vous croisez ça avec le D-Wallet, donc qui supportera l'identité numérique et la monnaie numérique, eh bien vous êtes capable de savoir qui possède quoi, pendant combien de temps, etc. Et de mettre en vigueur une taxe carbone pour les particuliers. Je rappelle qu'elle existe, hein, pour les professionnels, pour certains professionnels de l'Union européenne, il sera possible de profiler une taxe carbone individuelle et de vous faire payer en fonction de ce que vous possédez ou non.
Alors évidemment, l'Union européenne explique qu'il ne s'agit pas du tout de faire en sorte de fliquer tout le monde, même si dans les faits, et vous avez raison de le souligner, l'Union européenne est en train de mettre en place une surveillance généralisée. Il s'agit au contraire d'un futur système d'information pour l'économie circulaire.
Oui, alors derrière l'économie circulaire, hein, on retrouve un petit peu les mêmes principes, hein, les mêmes bases fondamentales finalement que les déclarations de Klaus Schwab au World Economic Forum. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. La société où on loue tout, la société où personne n'est propriétaire de rien, c'est leur notion de l'économie circulaire. Et effectivement, ça prendra tout son sens avec ce DPP. Puisque là, en fait, vous allez devoir habituer, puisque le citoyen sera incité par rapport à ses habitudes de consommation, justement, en fonction de sa taxe carbone, en fonction de son empreinte carbone. Donc, c'est un encouragement vers, justement, la société de la location, on va dire.
Voilà, avec donc l'idée, bien sûr, que donc j'achète une tasse, cette tasse a un code barre, ce code barre permet à l'administration de savoir que je possède cette tasse. Déjà, c'est absolument stupéfiant. Et ensuite, surtout, si je revends cette tasse, eh bien, il y a un transfert automatique de propriété à la revente parce que j'aurai besoin de scanner, en fait, le code barre. Je ne pourrai plus vendre un objet sans que son identité numérique ne soit visible. Et ça, d'ailleurs, ça se boucle aussi avec l'exigence désormais d'une facturation électronique permanente et non plus d'une facturation papier. Autrement dit, on est en train de multiplier dans toute l'Union européenne et en France tous les moyens de traquage, de pistage, donc de flicage de n'importe quel objet, de n'importe laquelle, en fait, de mes transactions de la vie quotidienne. On saura que j'ai acheté une baguette et on saura si j'ai préféré la boule au raisin sec plutôt que le pain au son dans toute l'Union européenne.
Oui, tout à fait, puisque alors ce DPP au niveau donc des données contiendra ce qu'on appelle donc le ownership history. Donc c'est alors l'Union européenne a bien insisté en disant il n'y aura pas de données personnelles parce que la RGPD, j'ai envie de dire donc la RGPD ne le permet pas, mais pour autant les croisements seront possibles et l'application avec laquelle vous scannez est reliée à votre numéro de portable et reliée donc à vos données personnelles. Donc ça sera parfaitement possible. Donc le transfert de propriété sera traqué. On pourra comme ça en fait identifier finalement, c'est ce que je disais en préambule, identifier une sorte de cadastre mobilier. Et puis derrière, vous avez bien sûr l'administration fiscale, parce que on rejoint bien des fins de fiscalité et d'économie en fait. Tout ça, c'est pour alors soi-disant éviter l'évasion fiscale, mais c'est aussi avant tout pour traquer vos habitudes de consommation. Aujourd'hui, vous êtes traqué au niveau dans une échelle granulaire, on va dire assez petite, puisque vous avez une carte de fidélité à Auchan, à Carrefour, etc. Les données restent simplement centralisées dans ces commerces-là. Avec le registre européen, vous aurez en fait une centralisation de toutes ces données, de toutes vos habitudes de consommation, etc.
Voilà. Alors, nous sommes en train de recevoir Emmanuel Darle pour parler du passeport numérique des produits, autrement dit le DPP en anglais. Donc c'est une entreprise de flicage général. Et Emmanuel, il y a quelque chose d'étonnant dans cette décision. Enfin, il y a quelque chose de pas du tout étonnant. C'est voilà, entre la facture électronique, le passeport électronique, l'identité numérique européenne, l'euro numérique, on sent bien qu'il y a une numérisation en fait de la vie privée et que tout ce qui est de l'ordre justement de la vie privée doit devenir ouvert à n'importe quelle enquête étatique, donc on prétend que les données seront protégées, mais en parallèle justement, plus on multiplie les projets de numérisation, donc une fois plus, jusqu'à la moindre cuillère, jusqu'à la moindre tasse, ça paraît absurde, mais ça ne l'est pas. Le moindre t-shirt, le Bangladesh a dit qu'avec les exigences du DPP, ça imposait de tels investissements informatiques à ce pays qui est le deuxième exportateur de tissus au monde, de tissus manufacturés, qu'il demandait que l'Union européenne les aide en fait à se mettre en règle par rapport aux exigences du DPP, donc qui est censé rentrer en vigueur en 2027. Et donc par rapport à l'ensemble de cette numérisation, l'Union européenne, à côté de ça, montre qu'elle est incapable de protéger les données et au contraire, il y a des fuites, non seulement en France, on doit être le champion européen, mais voilà, dans toute l'Union européenne, chaque fois qu'elle sort une application, les bugs surgissent dans la minute même où elle est révélée.
Oui, tout à fait. Alors, en France, hein, je le rappelle, on a à peu près en moyenne 3 fuites de données par jour. On est à plusieurs milliards là, de données depuis début janvier. Hein,
qui ont de données fuité. Publiques
de données, Non, de données en fait. Alors, de données publiques, mais de données, que ce soit par exemple de France TID, de Ficoba, etc. Ce sont des agences gouvernementales qui sont censées garantir l'anonymat des données et puis surtout leur sécurisation. Alors l'anonymat, non, mais au moins un anonymat minimal pour respecter la RGPD, mais également leur sécurisation. Tout comme d'ailleurs, je le rappelle, les partis politiques. Hein, quand on voit ce qui s'est passé à la France Insoumise, avec donc la fuite de 123 000 données de militants, ça fait beaucoup. Donc oui, effectivement, c'est inquiétant, puisque là, ça laissera en fait, ça peut laisser présager justement une fuite pour savoir, par exemple, qui possède des articles de luxe. Vous avez une fuite ce week-end qui concerne Pierre et Vacances. Donc on a un fichier aujourd'hui qui se retrouve sur le dark web avec l'identité de personnes qui vont partir en vacances telle date à telle date. Clément Domingo a alerté, hein, le hacker Saxe. Donc, ça va devenir vraiment très, très compliqué. Donc, vous pouvez très bien vous retrouver avec un fichier qui vous dira, par exemple, que chez vous, vous avez tel objet électronique, tel objet de luxe, etc. Et puis finalement, des personnes malveillantes n'auront plus qu'à venir se servir.
Alors, cette fuite de données françaises, cette fuite de données européennes, ça pose quand même la question de pourquoi numériser comme ça à bride abattue alors que les différents États sont incapables de garantir une véritable sécurité numérique ?
Oui, il n'y a, pas de sécurité numérique parce que je pense que pour avoir une sécurité numérique, il faut avoir un budget déjà. Il faut qu'il y ait une volonté politique également. Quand on voit ce qui s'est passé avec France Titre, par exemple, un hacker de 15 ans, donc ce n'est pas un hacker qui a fait une grande école d'ingénieurs, etc. Il a juste profité d'une faille extrêmement simple pour aller donc siphonner l'ensemble de la base de données de France Titre avec la copie des passeports, la copie des cartes d'identité, même si France Titre au départ avait dit non, c'est pas vrai, on n'a pas eu de fuite concernant certains fichiers, etc. Ben, en fait, on s'est rendu compte que si. Donc, on va avoir... Enfin, c'est que le début, ça, il faut bien s'en rendre compte. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on nous habitue finalement à avoir nos propres données sur le dark web, revendues après par des hackers malveillants à des tiers ou à des... Voilà. Donc, il faut qu'il y ait une volonté, une politique de la cybersécurité. Il faut que les agences gouvernementales comme l'ANSSI et puis la CERTEU, donc qui est l'équivalent de l'ANSSI mais au niveau européen, prennent à cœur leurs responsabilités, puisque là, on est vraiment dans un passage très critique pour le moment. Et si ça s'accélère, si ça s'accentue, très sincèrement, autant tout mettre sur Internet, voilà. Votre déclaration d'impôt, etc., puisque de toute façon, elle y sera. Voilà.
Juste une dernière question. LFI avait attaqué Sarah Knafo en expliquant que son site de campagne n'était pas du tout protégé et avait évidemment mis en avant l'excellence de son propre, de ses propres outils informatiques et de ses propres sites Internet. Ils ont été victimes, eux aussi, évidemment, d'une faille. On a l'impression qu'en fait, c'est très compliqué d'avoir une véritable sécurité numérique.
Alors, compliqué, oui et non. En fait, si vous mettez les moyens, si vous avez, enfin, en tout cas, si vous dédiez un budget à la cybersécurité, c'est pas compliqué puisque on a quand même des experts en France. On forme également des étudiants. Il y a des masters en cybersécurité qui sont dédiés à ça. Donc, compliqué, non. Mais par contre, il faut prendre à cœur, oui, la politique de cybersécurité. Encore plus quand on stocke des données concernant des opinions, etc. On a aujourd'hui un hacker qui prétend avoir 123 000 militants avec leurs opinions, leur nom, leur prénom, leur adresse email, etc. C'est la plus grosse fuite de données concernant, on va dire, un parti politique. Sarah Knafo, elle, avait monté son site, on passe à défense, mais elle avait monté son site rapidement pour qu'il soit vite opérationnel. Malheureusement, il n'était pas sécurisé, mais elle ne stockait pas des données d'opinion, elle ne stockait pas des militants, des fichiers de militants en interne. Quand on manipule de telles données, on a une très grande responsabilité. Et j'espère de tout cœur que les hackers qui ont fait ça seront retrouvés par la police.
Eh bien, merci Emmanuel Darle. Un dernier mot, une phrase sur le DPP. Est-ce que c'est une attaque contre nos libertés, une de plus ?
C'est la continuité de la société orwellienne, la société de contrôle, on instaure toujours plus d'outils numériques. Alors, ça passe beaucoup par le numérique. On a eu le pass Covid, on a eu tel pass, etc. Et ça ne fait que commencer. Ça va continuer. Et si à un moment donné, on met pas un frein d'arrêt justement à cette Commission européenne qui s'arroge le droit de définir, de violer les libertés fondamentales des citoyens, eh bien, malheureusement, ça deviendra de pire en pire.
Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Darle et à très bientôt sur Radio Courtoisie pour continuer à suivre cette atteinte continuelle à nos libertés.
7h-10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 7h24, nous recevrons à 8h Maïlys Clauzel pour reparler de cette manifestation gigantesque à Londres, organisée à nouveau par Tommy Robinson. Mais tout de suite, nous recevons Arnaud Benedetti dans le grand entretien sur la présidentielle 2027.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Bonjour Arnaud Benedetti.
Bonjour à vous.
Voilà, je rappelle que vous êtes professeur associé à l'université Paris-Sorbonne et que vous dirigez la nouvelle revue politique. Il y a déjà en France une trentaine de candidats pour la présidentielle 2027. Édouard Philippe, Bruno Retailleau, David Lisnard, Xavier Bertrand, qui a bien sûr toutes ses chances, Marine Le Pen, alors Jordan Bardella ne l'est pas encore, Jérôme Guedj, qui lui aussi a toutes ses chances, Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Marine Tondelier, François Ruffin, Gabriel Attal, Fabien Rousselet, enfin tout le monde, Olivier Faure, Boris Vallot et François Hollande se tâtent, ainsi que Ségolène Royal. Et est-ce qu'il est normal qu'à plus d'un an de l'échéance, on soit déjà tous si nombreux sur la ligne de départ ?
Alors c'est un tour de chauffe quelque part, parce qu'il y a parmi tous les candidats que vous venez de citer, certains qui sont, disons, dans une période de test de leur candidature par rapport à des concurrents qui très souvent d'ailleurs sont dans le même camp politique qu'eux. Donc j'allais dire que c'est un exercice un peu obligé, même si ça dit quelque chose sur la vie politique française et son émiettement et sa balkanisation, et peut-être, diront certains, sa perte de repères, parce qu'on est dans un champ politique qui est profondément bousculé, qui est profondément balkanisé, qui voit un certain nombre d'ambitions émerger un peu dans une sorte de désordre qui est un désordre partisan. Après, il est clair qu'on sait très bien que d'abord le système de filtrage que constitue la recherche des parrainages et des 500 signatures dans 30 départements différents, il faut quand même le rappeler, va quelque part écréter cette liste de candidats nombreux et variés.
Alors, si on oublie, si j'ose dire, et vous avez raison de nous le rappeler, cet émiettement des candidatures, dont certaines sont de purs effets d'annonce ou une manière de se placer, on va s'intéresser au sondage IFOP du 5 et 6 mai 2026, où 15 personnalités politiques étaient testées pour 2027. Donc voilà, les sondeurs ont de même réduit l'éventail. Et Jordan Bardella est en 34% de satisfaits, donc il est en tête avec Marine Le Pen des intentions de vote ou en tout cas des personnalités politiques préférées. Mais il faut regarder aussi l'autre côté de ce sondage. 47% des Français sont mécontents de Jordan Bardella. Ce fait qu'on a l'impression que à la fois le Rassemblement national est en tête des satisfaits, mais il est en tête des mécontents. Et est-ce que ça signifie que le Rassemblement national n'a aucune marge de progression ?
Alors d'abord, on est très loin. On est très loin du premier tour de l'élection présidentielle qui se déroulera, je le rappelle, au mois d'avril. Donc il faut évidemment prendre avec toutes les précautions d'usage ce type de sondage, surtout tant que l'offre politique n'est pas clairement définie, parce que, in fine, malgré toute la multitude de candidatures dont vous avez rappelé les noms, nous n'avons pas pour l'instant une scène politique qui est stable avec l'état parfait, j'allais dire, de la concurrence tel qu'il sera connu à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Alors ensuite, pour répondre plus précisément à votre question, je crois qu'il y a deux éléments. Il y a un socle sociologique qui est très fort en faveur du Rassemblement national. Ce socle sociologique, c'est celui d'une grande partie des classes populaires et des classes moyennes, qui reste profondément attaché à l'offre politique du Rassemblement national, et j'allais dire, quel que soit d'ailleurs son représentant lors de cette élection présidentielle, qu'il s'agisse de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Après, il est clair qu'il y a encore en France, et on l'a vécu lors des dernières élections législatives de 2024, un socle qui est en profonde opposition au Rassemblement national, qui va globalement, pour aller très vite, de l'extrême gauche jusqu'à une grande partie du bloc central. Alors, après, il y a des facteurs plus personnels, puisqu'on parle de Jordan Bardella. Est-ce que Jordan Bardella est considéré comme un candidat, malgré le fort taux d'adhésion dont il bénéficie, crédible, vu son âge, vu son expérience à l'élection présidentielle? Il y a cet aspect aussi qu'il faut vraisemblablement prendre en compte dans le niveau d'insatisfait que vous venez souligner. Ce qui est sûr quand même, et ça c'est un point important, et ça sera une des questions à mon avis fondamentales lors de cette élection présidentielle, ce qu'il faudra vraiment mesurer, et il reste un an, donc il peut se passer encore beaucoup de choses, la situation économique se dégradant, la question sécuritaire devenant de plus en plus saillante dans les préoccupations des Français, les facteurs aussi géopolitiques qui peuvent peser dans le choix que feront les électeurs en 2027. Mais ce qui me paraît important et qu'il faudra encore une fois regarder de très près, c'est le niveau, j'allais dire, d'exaspération ou de dégagisme qui travaillera l'opinion publique au moment où nous allons voter en 2027. Nous sortons de 10 années de présidence Macron, et ce facteur-là, qu'on le veuille ou non, est un facteur qui peut en effet à un moment doper des offres qui sont considérées comme des offres dégagistes. Et ça sera bien évidemment l'un des éléments qu'il faudra regarder de très près au moment où se déroulera l'élection.
Alors, quand vous parlez d'offres dégagistes, donc c'est l'idée de renouveler complètement le personnel politique. On l'a vu aux dernières élections législatives, on l'a vu aux dernières élections municipales, mais c'est un mouvement qui date déjà d'il y a 10-15 ans. Est-ce que le personnel politique comme Bruno Retailleau est considéré comme étant quelqu'un qui, même n'ayant jamais brigué ce suffrage, appartient à l'ancien monde? Est-ce que David Lisnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, appartient lui aussi à l'ancien monde, ou il suffit de se présenter pour la première fois à l'élection présidentielle pour être considéré comme une candidature dégagiste?
Non, certainement pas, parce que alors d'abord, ce sont deux candidatures très différentes qui ne se sont pas positionnées au regard des dernières évolutions de la vie politique de la même manière. David Lisnard d'un côté et Bruno Retailleau de l'autre. Bruno Retailleau, la difficulté qui est la sienne, c'est que d'abord, il est à la tête d'une marque politique qui est quelque part en grande difficulté, voire qui peut apparaître comme profondément démonétisé, comme l'est de l'autre côté de l'échiquier politique le Parti socialiste. À cela se rajoute une autre difficulté pour Bruno Retailleau, c'est qu'il a été membre de gouvernements qui sont des gouvernements du bloc central. Donc, ce que ne manqueront pas d'ailleurs de lui opposer un certain nombre de ses concurrents, c'est qu'il a été, même de manière très réduite en termes de temps, puisque ça a duré à peu près un peu plus d'un an, pas plus, il a été malgré tout comptable de ce bloc central. Donc pour lui, il va falloir qu'il arrive véritablement à montrer qu'il est sur une ligne qui est une ligne profondément opposée à ce que l'on peut appeler, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas plus vraiment de majorité, la majorité sortante. C'est ce qu'il fait dans ses propos, c'est ce qu'il essaye en tout cas de mettre, j'allais dire, en avant dans sa démarche, mais il a cette double difficulté, à la fois la marque dont il est le représentant et ensuite son parcours politique récent qui peut en effet constituer un handicap, notamment pour un électorat qui veut faire du passé table rase. Pour David Lisnard, la difficulté est autre. Si vous voulez, David Lisnard, lui, de ce point de vue-là, n'a pas été véritablement comptable de ce qui s'est passé, y compris ces deux dernières années, parce qu'il a été toujours très clair dans une position, d'opposition, y compris finalement lorsqu'il y avait des ministres LR qui participaient à un gouvernement de coalition. La difficulté pour David Lisnard, elle est autre. C'est qu'en effet, il peut apparaître comme un candidat tout à fait nouveau. Sa difficulté, c'est que il est sur un créneau qui est un créneau libéral-conservateur, mais à forte coloration libérale. Et on sait très bien qu'en France, porter l'étendard libéral est quelque chose de particulièrement complexe au regard de notre culture politique. Je rappelle que la dernière grande candidature libérale en France remonte à 2002 avec Alain Madelin qui n'avait pas pu faire franchir la barre des 5%. La deuxième difficulté pour David Isnard, c'est que il est aujourd'hui certes le président de l'Association des maires de France, il a pour lui une cohérence de discours, il a pour lui une réussite indéniable en termes de maire de Cannes, il est constant dans ses positions, mais il est, j'allais dire, sur un segment électoral qui apparaît pour l'instant en tout cas assez restreint. A-t-il la possibilité de susciter ensuite une dynamique au fur et à mesure que la situation politique, plus on va se rapprocher du premier tour de l'élection présidentielle, va se clarifier? Ça sera une des questions auxquelles il sera confronté. Mais encore une fois, Isnard-Retailleau, ce n'est pas tout à fait la même chose en termes de positionnement.
Alors, ce n'est pas la même chose, et en même temps, ils ont devant eux un autre obstacle possible, c'est celui de la primaire à droite, la primaire même de la droite et du centre, si on suit Gérard Larcher, qui est prêt à admettre Gabriel Attal au sein de cette primaire. À votre avis, par rapport justement à ce dégagisme dont vous parlez, qui est un véritable danger, par rapport à l'exaspération générée par Emmanuel Macron et ses premiers ministres successifs, la droite a-t-elle intérêt à organiser une primaire en mélangeant tous les anciens premiers ministres comme Édouard Philippe et Gabriel Attal et tous les anciens ministres comme Bruno Retailleau et tous les nouveaux arrivants entre guillemets comme David Lisnard?
D'abord, il y a trois obstacles. Un premier obstacle, c'est que toutes les personnes que vous avez citées ne sont pas en convergence sur cette question, c'est le moins qu'on puisse dire, de la primaire. Entre ceux qui préconisent une primaire, comme David Lisnard, ceux qui, comme Bruno Retailleau, sont aujourd'hui d'ores et déjà lancés dans la course à l'Élysée et qui considèrent que la question de la primaire a été notamment réglée par le vote des adhérents LR, et ceux comme Édouard Philippe qui, eux, tracent leur sillon sans vouloir entendre parler de primaire, vous voyez bien qu'il y a là déjà, le moins qu'on puisse dire, il n'y a pas d'unité sur la nécessité ou non d'organiser une primaire. Ensuite, deuxième élément, si on regarde l'histoire de la primaire pour la droite, clairement, la primaire n'a jamais réussi à la droite. On a eu des primaires, et notamment on pense à la primaire de 2016 qui avait vu François Fillon l'emporter. Et on ne peut pas dire que ça a servi de levier à une dynamique victorieuse à la droite. Troisième élément, c'est, j'allais dire, il y a une très grande confusion parce que faire une primaire comme le préconise par exemple quelqu'un comme Laurent Wauquiez ou David Isnard qui irait quasiment de Gabriel Attal jusqu'à Éric Zemmour, ça ne me paraît pas forcément, si vous voulez, cohérent politiquement, tellement sont grandes les différences, les approches, les conceptions de la société qui peuvent séparer un certain nombre de ces candidats. On voit mal, par exemple, si demain, et il l'a déjà dit, Édouard Philippe devait subir la victoire d'un candidat très à droite, qu'il se rallie à ce candidat dans le cadre d'une primaire. Cette primaire n'apparaît pas à la fois faisable en raison des ambitions des uns et des autres et des démarches tactiques des uns et des autres, mais elle n'apparaît pas non plus faisable sur le plan idéologique. Pour qu'une primaire ait du sens, il faut qu'il y ait à un moment donné un minimum de fonds communs. Et là, on ne voit pas véritablement le fonds commun qui réunit l'ensemble des candidats que je viens de citer.
Alors, on ne voit pas ce fonds commun et malgré tout, on sent qu'il y a une volonté de droitisation de la vie politique. Dans les sondages, ce sont les personnalités de droite qui cumulent les plus grands taux d'acceptation ou de satisfaction, même si, effectivement, on a vu que le RN cumulait lui aussi avec d'autres membres de la droite les plus forts taux de rejet. Dans une élection, on sait que le rejet pèse plus lourd que la satisfaction et qu'au bout du compte, il y a une prime, si j'ose dire, au rejet et que on préfère ne pas voter pour quelqu'un plutôt que de voter pour quelqu'un d'autre.
Oui, c'est un peu, j'allais dire, le symptôme d'une crise démocratique. Finalement, le vote d'adhésion apparaît aujourd'hui moins déterminant que le vote de rejet. La victoire, finalement, d'Emmanuel Macron en 2022 repose sur le rejet à l'époque de Marine Le Pen, même si, et du Rassemblement national, même si depuis quand même la situation a fortement évolué, notamment depuis que le Rassemblement national dispose d'un groupe parlementaire conséquent, maintenant même du premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est vrai que l'autre aspect, c'est que finalement, l'élection présidentielle, c'est une élection, il ne faut jamais le rappeler, à deux tours. Dans le premier tour, il faut être fort dans son camp, il faut réunir son camp pour être le plus performant pour pouvoir franchir la barre du premier tour. C'est ce que disait François Mitterrand. Au premier tour, je veux dire, on ossifie ses soutiens et au deuxième tour, on élargit. C'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité, en effet, de rassembler au-delà de son électorat premier tour. Et ça sera d'ailleurs l'un des enjeux pour l'ensemble des candidats, et notamment pour le Rassemblement national, dont on sait qu'il est très performant lors du premier tour, mais qu'il se heurte ensuite au second tour à une espèce d'obstacle qui l'empêche de pouvoir remporter cette élection. Donc oui, en effet, est-ce que cette élection se fera sur, j'allais dire, plus sur le rejet que sur l'adhésion? Ça sera l'un des grands enjeux de 2027, sachant qu'on est vraiment dans une élection qui est une élection tout à fait essentielle, parce que c'est une élection de césure, au sens où on voit bien que les forces politiques, qui sont les forces politiques de gouvernement, qui ont gouverné le pays maintenant depuis presque quatre décennies, voire plus, sont véritablement de plus en plus essoufflées et ont de plus en plus de mal à pouvoir justement bénéficier de ce vote de rejet qui leur permet de rejeter des forces véritablement alternatives, tant à gauche qu'à droite. Est-ce que l'élection de 2027 se fera aussi pour une candidature alternative à travers un vote d'adhésion? Ça sera là aussi l'une des grandes interrogations de cette élection. Mais il est clair que pour les forces qui veulent aujourd'hui, disons, renverser les forces de gouvernement, il faudra qu'elles soient en mesure, d'une manière ou d'une autre, d'élargir leur base électorale du premier tour, si elles veulent l'emporter.
Alors, nous recevons Arnaud Benedetti, le directeur de la Nouvelle Revue Politique. À 8h, nous parlerons de la manifestation pour Tommy Robinson, mais organisée par Tommy Robinson. Revenons à la vie politique française. Le Rassemblement National, puisqu'on parle d'adhésion et de rejet, a un socle de 22% de sympathisants, soit autant que tous les autres partis cumulés. C'est-à-dire que ce sont les 22% qui, de toute façon, ont décidé qu'ils voteraient Rassemblement National, quoi qu'il arrive. Et donc, aucune autre formation ne dépasse les 8%. Et donc, on a l'impression que le premier tour est plié d'une certaine manière et que le Rassemblement National va arriver en tête.
Ce serait une énorme surprise que le Rassemblement National ne soit pas présent au second tour de l'élection présidentielle, compte tenu des dynamiques sociologiques qui le portent. Si vous voulez, le Rassemblement National est un vote profondément sociologique. Il suffit de regarder et d'analyser la sociologie électorale pour se rendre compte que le Rassemblement national a préempté des catégories de population qui, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la candidature qui sera celle du Rassemblement national, Bardella ou Marine Le Pen, ils voteront pour le Rassemblement national. C'est la grande force du Rassemblement national, comme ça l'a été à une époque la force du Parti communiste dans les années 50, notamment, qui bénéficiait de cette dynamique sociologique qui en faisait le parti, en tout cas sur le plan électoral, l'un des grands partis dominants. On est un peu, dans cette configuration, à ceci près que le Rassemblement national est un parti qui a muté. Et c'est un parti en pleine mutation, c'est-à-dire que le Rassemblement national a abandonné un certain nombre des fondamentaux qui étaient les siens à sa naissance et même durant les années 80 et 90, quand c'était même dans les années 2000, quand c'était à l'époque Jean-Marie Le Pen qui le dirigeait. C'est tout le travail qu'a effectué depuis qu'elle a accédé à la tête du Rassemblement national Marine Le Pen. Elle a même abandonné, si vous voulez, l'idée de sortie de l'Europe qu'elle défendait notamment lors de l'élection présidentielle de 2017. Elle entend aujourd'hui incarner, j'allais dire, une famille politique qui ressemble plus à ce qu'on a appelé le gaullo-bonapartisme d'une certaine façon que ce qu'était l'extrême droite traditionnelle. Donc, elle n'est plus, j'allais dire, dans cette, elle n'est plus dans cette lignée-là. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qui lui permet vraisemblablement, au-delà des 22% que vous avez cités, de pouvoir essayer d'élargir sa base électorale. Mais en tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que compte tenu de cette puissance sociologique, elle est indéniablement aujourd'hui, Marine Le Pen et Jordan Bardella, en possibilité assez forte de pouvoir passer le premier tour. Et on voit mal aujourd'hui ce qui pourrait l'en empêcher, même s'il reste un an. Après, la question fondamentale, c'est de savoir qui sera candidat. Soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, on n'a pas tout à fait la même offre en termes de profil psychologique, en termes d'expérience, surtout, y compris parfois en termes de positionnement, notamment sur les questions peut-être économiques, entre les deux potentiels candidats.
Alors, à gauche, il y a Raphaël Glucksmann, François Hollande, mais aussi, par exemple, Ruffin. Ruffin qui vient de faire des déclarations surprenantes sur le fait qu'il refusait l'immigration de service, notamment, et qu'il s'agissait de ne pas défavoriser les Français avec une immigration économique qui, évidemment, est corrélée à la volonté de faire baisser le coût du travail. Et la gauche lui a reproché ce positionnement anti-immigration. Et est-ce qu'il est capable d'aller chasser sur les terres du Rassemblement national ? Et est-ce que tous ceux qui viennent du PCF et qui sont passés au RN ne seraient pas tentés de repartir du côté de Ruffin ?
Vous savez, c'est très difficile de ramener à soi un électorat qui est parti, surtout quand il est parti vers une force qui n'a jamais gouverné. C'est le cas du Rassemblement national. On reproche beaucoup au Rassemblement national son inexpérience, mais cette inexpérience est aussi, d'une certaine manière, un facteur favorable, puisqu'il peut susciter le réflexe chez un certain nombre d'électeurs et de larges segments des électeurs de tenter quelque chose qu'on n'a jamais tenté. Donc clairement, aujourd'hui, le Rassemblement national a préempté cette partie de l'électorat et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Marine Le Pen tient un discours qui est un discours social, d'une droite sociale, et que Marine Le Pen d'ailleurs ne se dit jamais de droite. Elle n'est ni de droite ni de gauche, parce que d'ailleurs quand vous discutez avec Marine Le Pen, et ça m'est arrivé de l'interviewer, Marine Le Pen vous dira que lorsqu'elle va, par exemple, rencontrer et faire du porte-à-porte chez les électeurs d'Hénin Beaumont, elle ne va pas se présenter comme une candidate de droite parce qu'elle a réussi justement à conquérir cet électorat qui vient plutôt, en effet, de la gauche et du Parti communiste, notamment dans le Nord. Après, François Ruffin, il tient un positionnement, c'est vrai, vous avez raison de le dire, qui est un positionnement d'un élu, qui est en plus un élu d'une région considéré comme périphérique, donc il a une connaissance profonde de la sociologie qui a pu l'élire, et il tient une position qui est un peu celle qui était en effet celle du Parti communiste des années 70 sur les questions migratoires. Le Parti communiste n'était pas un parti pro-immigrationniste, c'est le moins qu'on puisse dire, souvenez-vous des déclarations de Georges Marchais à l'époque. Donc il a compris que sur cette question, si vous voulez, de l'immigration, si vous voulez, le problème de la gauche et d'une grande partie de la gauche, c'est de ne pas avoir compris qu'on ne pouvait pas parler, si on voulait garder l'électorat populaire qu'ils ont abandonné, et qu'ils ont d'ailleurs abandonné théoriquement avec la fameuse note de Terra Nova dans les années 2000 et même un peu avant, c'est qu'on ne pouvait pas parler à cet électorat si on ne lui parlait pas de ce dont il avait envie qu'on lui parle, notamment la question migratoire, qui est une question dont on sait qu'elle est structurante dans l'orientation du vote des classes populaires, et pas seulement des classes populaires, y compris des classes moyennes, parfois même des CST+. Donc ne pas parler de cette question, en faire un non-sujet, voire en faire un sujet qui constituerait une chance pour la France, comme on le disait, vous en souvenez, dans les années 80 ou 90, y compris parfois au centre-droit, c'est finalement se couper la route pour récupérer cet électorat. Et de ce côté-là, Ruffin, en effet, a un discours qui se veut un discours qui parle aux classes populaires. Après, a-t-il, si vous voulez, l'élan suffisant, la force motrice suffisante pour pouvoir, en effet, ramener cet électorat ? Ça me paraît très compliqué, encore une fois, au regard des caractéristiques que je vous ai citées, c'est-à-dire le fait que cet électorat est parti, et il est parti vers une force politique qui n'a jamais gouverné, et qui apparaît donc comme une force politique d'alternance.
Eh bien, à propos d'alternance, c'est le moment de rappeler que Radio Courtoisie, justement, est une radio alternative, pour le dire de cette manière-là. Vous êtes 1,5 million à nous avoir rejoints, vous êtes 1,5 million à nous écouter chaque semaine, 1,5 million d'auditeurs différents, c'est Médiamétrie et les autres canaux qui nous le disent. Eh bien, n'hésitez pas à faire partie des quelques milliers qui nous soutiennent et soutenez donc Radio Courtoisie.
Absolument, puisqu'il paraît d'après nos études qu'il n'y a que 2% des auditeurs qui cotisent ou qui aident Radio Courtoisie. C'est peu. Si vous faisiez un petit effort en fonction de vos moyens, eh bien Radio Courtoisie pourrait encore se développer davantage. Alors, si vous avez entendu notre message, rendez-vous sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr ou par chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, à l'ordre de Radio Courtoisie. Comme toujours, un grand merci d'avance.
Merci Franck. Voilà, faites en sorte que ceux qui donnent à Radio Courtoisie soient plus nombreux que ceux qui ont soutenu Valérie Pécresse. Ça ne devrait pas être trop compliqué en pourcentage. Arnaud Benedetti, vous parliez de dégagisme. Donc, c'est évidemment la meilleure chance du Rassemblement National. Est-ce que LFI a lui aussi une chance de bénéficier de ce dégagisme ?
Clairement, LFI est une force qui est, structurellement, existentiellement dégagiste. C'est en tout cas la stratégie développée par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est, si vous voulez, aujourd'hui dans une stratégie à deux étapes. Première étape, en effet, il faut qu'il s'assure du socle électoral dont il a besoin en allant chercher ses centaines de milliers de voix, notamment dans les quartiers, pour pouvoir franchir cette barre du premier tour qu'il n'a jamais franchi et qu'il a raté parfois de justesse, notamment en 2017, mais également encore plus en 2022. Et ensuite, il va falloir qu'il soit en mesure de pouvoir rassembler le camp de la gauche. Il est, de ce point de vue-là, dans une stratégie qui vise à la fois à cliver, mais en même temps, il va falloir qu'il rassemble. Et d'ailleurs, on voit depuis la déclaration de sa candidature qu'il essaye, d'une certaine manière, au moins sur le plan de la forme, au moins sur le plan de sa communication, de commencer à arrondir les angles. Finalement, Jean-Luc Mélenchon, quel pari fait-il ? Il fait le pari qu'il est le meilleur candidat de la gauche. Tout simplement parce que l'élection présidentielle est une élection d'incarnation, parce que indéniablement il dispose d'un capital charismatique qui en fait un candidat, tout à fait adapté au moins à ce type d'élection. Ça, c'est un point essentiel et qu'il considère que, de toute façon, l'état de la concurrence étant ce qu'il est dans son propre camp, enfin, dans sa propre zone de chalandise électorale, est tel qu'il n'y a aucun qui pourra véritablement le concurrencer. Donc, la stratégie qui est la sienne, c'est d'être extrêmement dégagiste dès le premier tour, pour notamment ramener à lui tous les déçus de la social-démocratie, éventuellement l'électorat le plus radical, éventuellement l'électorat qui est communautaire, enfin en tout cas qui l'assigne à ses communautés, pour être en position de se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle. Et ensuite, il pense que face vraisemblablement à un candidat du Rassemblement national, parce qu'il considère que c'est certainement pour lui la configuration électorale la plus favorable, qu'il permettra de rassembler la gauche dans une dynamique autour du fameux front entre guillemets antifasciste que la gauche réactive régulièrement à chaque élection. Mais son moteur est indéniablement dégagiste. Il veut incarner une véritable alternance de gauche, d'extrême gauche, par rapport aux politiques qui ont été menées notamment par Emmanuel Macron depuis 10 ans.
Alors, je vais citer un peu longuement une analyse électorale, enfin une analyse préélectorale de Loïc Stéphan, chercheur de l'Université de Nouméa. Au second tour, le candidat anti-RN devra réussir une équation difficile. Il devra mobiliser un électorat très large qui va de la gauche radicale au centre droit autour du refus du RN. Cela suppose un report massif des voix LFI, écologistes et socialistes. Or, ce report n'est pas automatique. En 2022, 42% des électeurs Mélenchon ont voté Macron au second tour, contre 17% qui ont voté Le Pen et 41% qui se sont abstenus ou ont voté blanc. Le Front républicain s'érode à chaque cycle.
Oui, clairement. Ça, il faut le dire. Le Front républicain s'érode, s'infléchit et même on l'a vu aux dernières élections législatives. Quand bien même les élections législatives, l'entre-deux-tours a constitué d'une certaine manière, au vu des résultats du premier tour, une forme de surprise parce qu'on ne s'imaginait pas que dans un délai aussi court, les forces anti-Rassemblement national allaient réussir à se coaguler pour empêcher l'émergence d'une majorité, y compris d'une majorité relative en faveur du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Mais le Rassemblement national a continué sa progression électorale, y compris par rapport aux élections législatives de 2022. En plus, si vous voulez, il y a un autre aspect, c'est que le Rassemblement national, aujourd'hui, est une formation politique qui fait moins peur que LFI. Toutes les études et tous les sondages le montrent. D'une certaine manière, le diable est passé de la droite à l'extrême gauche aujourd'hui. Et donc, en effet, l'hypothèse qui consisterait à avoir un second tour Mélenchon-Bardella ou Mélenchon-Marine Le Pen nécessiterait pour le candidat de la France insoumise de faire un tel grand écart qu'on ne voit pas comment il peut rassembler notamment l'électorat centriste qui, tout en ne voulant pas voter Rassemblement national, n'irait certainement pas voter pour Jean-Luc Mélenchon, considérant que Jean-Luc Mélenchon est un candidat encore plus dangereux que ne l'est, par exemple, le Rassemblement national. Alors après, dans l'hypothèse où c'est un candidat, disons, du bloc central, en effet, là, la configuration change évidemment, puisqu'on peut penser que le candidat du bloc central opposé au candidat du Rassemblement national aurait une capacité de rassemblement plus forte que, évidemment, un candidat venu de la gauche radicale comme Jean-Luc Mélenchon. Mais tout ça reste à démontrer parce qu'encore une fois, vous l'avez très dit, tendanciellement et en politique, il faut toujours regarder les tendances. Au-delà du résultat immédiat, tendanciellement, la notion de rassemblement ou de front républicain ou d'arc républicain est une notion qui perd de son efficience électorale.
Un dernier chiffre, enfin, ou plutôt une volée de chiffres. Voilà. Aujourd'hui, donc, on l'a dit, le SOC du Rassemblement national est de 22%. La perception de capacité à gouverner du RN atteint 47%. Et la perception de dangerosité a perdu 12 points en 5 ans. Voilà, et le Rassemblement national a l'air d'avoir réussi son pari de la notabilité, de l'acceptation républicaine. N'a-t-il pas néanmoins un problème? C'est celui des abstentionnistes, c'est-à-dire ces gens qui sont peut-être du côté du Rassemblement national, mais qui n'iront jamais voter.
Oui, alors le problème de l'abstention, il touche toutes les formations politiques, mais il peut toucher en effet de manière plus virulente le Rassemblement national qui a besoin justement de cet électorat abstentionniste qui est aujourd'hui soit dégoûté, soit désintéressé par la politique parce qu'il considère que le spectacle politique qui lui est offert n'est pas à la hauteur de ses attentes. Et donc, de ce point de vue-là, en effet, le Rassemblement national, compte tenu du discours qu'il tient, compte tenu du positionnement historique qui est le sien, pourrait espérer pouvoir ramener une partie des abstentionnistes. Vous avez raison, c'est un phénomène aujourd'hui majeur, c'est que pendant des années et des années, l'abstention a profité au Rassemblement national. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'abstention dessert le Rassemblement national. Souvenez-vous, lors des élections régionales de 2020, le Rassemblement national était donné très haut dans les sondages, en mesure de remporter un certain nombre de régions. Et le fait que l'abstention ait été forte, les catégories populaires, notamment qui sont les plus touchées par l'abstention, ont empêché les victoires du Rassemblement national dans un certain nombre de ces régions.
Alors, dernière question. Évidemment, on sent bien que il y a le bloc central qui va essayer d'avoir son candidat, mais ce candidat sera-t-il Darmanin, sera-t-il Attal, sera-t-il Édouard Philippe? Là, chaque candidat a des trajectoires et des dynamiques très différentes.
Oui, alors Gérald Darmanin était favorable, lui, à une primaire. Je le rappelle, et il considère que le fait qu'Édouard Philippe refuse cette primaire l'empêche d'une certaine manière vraisemblablement d'être candidat, sauf si les circonstances font qu'à un moment donné, il trouve un trou de souris pour présenter sa candidature. Le vrai sujet pour tous ces candidats, au-delà de leurs différences de personnalité, voire parfois de leurs différences de programme, voire de leur trajectoire un peu différente, Philippe vient des LR, Attal vient du Parti Socialiste, c'est comment ils arrivent à incarner une alternative, comment ils se différencient, quel inventaire font-ils des 10 ans de macronisme dont ils sont comptables, comment ils peuvent finalement incarner une forme de rupture tout en ayant participé depuis 10 ans à l'aventure macroniste. Ça, c'est un vrai sujet, un vrai défi pour eux. Et évidemment, ils seront ramenés d'une certaine manière, même s'ils essaieront de s'en distinguer, au bilan d'Emmanuel Macron par leur concurrent.
Alors, merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous ce matin. Et évidemment, on aura l'occasion d'en reparler d'ici avril 2027.
Avec plaisir. Merci.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Voilà, il est quasiment 8h et j'ai le plaisir de recevoir une journaliste de talent, Maëlys Clauzel. Bonjour Maëlys.
Bonjour Richard et bonjour à tous nos auditeurs.
Alors, vous étiez à Londres ce samedi-manche, voilà, je propose qu'on dise samedi-manche au lieu de week-end, et vous étiez à Londres ce samedi-manche où Tommy Robinson rééditait l'exploit de réunir des dizaines, voire des centaines de milliers d'Anglais en colère, enfin de Britanniques en colère à Londres.
Tout à fait Richard. Alors une fois de plus, eh bien, comme vous l'avez dit, c'était l'édition 2.0, si j'ose dire, de la grande mobilisation qui avait eu lieu en septembre. Les revendications étaient plus ou moins similaires, mais je dirais que ce week-end-là, enfin ce samedi-dimanche disons, était beaucoup plus axé sur l'unification du Royaume. C'était quelque chose d'un peu plus local, bien que le message évidemment anti-immigration et anti-islamisation était... tout à fait omniprésent, hein. Ça reste le thème le plus porteur et le thème principal qui rassemble autant de monde à cette mobilisation. Il y avait aussi énormément de Britanniques, bon évidemment venus de toutes parts, également des porte-paroles, il y avait même des porte-paroles iraniens, hein, pour tout vous dire, qui justement avaient plus ou moins les mêmes...
Iraniens,
voilà, les mêmes revendications, si j'ose dire, notamment par rapport au régime des mollahs qui veulent manifestement voir disparaître. Mais voilà, il y avait quand même cette unification du royaume, cette volonté plutôt, mais aussi des porte-paroles venus de tous bords, si j'ose dire, de tout le pays, même s'il manquait quand même quelques-uns, hein. Il manquait par exemple des porte-paroles venus de toute l'Europe, hein, mais qui manifestement sont interdits d'entrer au Royaume-Uni. Je pense à notamment Eva Vlaardingen-Brock, voilà, chers auditeurs, vous voyez certainement qui elle est. De France, et il y avait le collectif Nemesis, qui ont fait d'ailleurs une action tout à fait remarquable, en tout cas qui a su animer la foule. Elles sont arrivées en burqa sur la scène pour évidemment dénoncer cette charia qui manifestement commence à envahir le Royaume-Uni. Et évidemment les Britanniques étaient tout à fait partisans de cette action. Enfin, en tout cas,
je suppose qu'elles ont enlevé leur burqa.
Elles ont enlevé leur burqa, évidemment. Voilà. C'était tout le message qui était véhiculé lors de cette action. Hein, voilà. Et donc voilà, les revendications étaient toujours extrêmement similaires et elles rassemblent toujours de plus en plus. Demande au Royaume-Uni, voilà, des marées humaines, hein, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Il y avait quand même un peu moins de monde quand même qu'en septembre. Moi, je l'ai quand même ressenti. C'était pas exactement le même dispositif, mais c'était quand même toujours un signe d'espoir. Voilà, c'était toujours très folklorique. Hein, c'est le folklore très très britannique qui surplombait.
Vous nous avez rapporté quelques images, notamment de ce folklore britannique auquel nous sommes chers, surtout moi. Tu l'as déjà passé? Eh bien, parfait. Je regardais Maëlys, donc du coup, je vois. Maëlys, vous avez donc entendu Tommy Robinson, vous avez écouté son discours. Et lui-même, a-t-il arrondi les angles quand vous parlez de messages sur l'unification du Royaume-Uni, du Royaume des Unis, d'ailleurs, grâce à la trop grande disparité des populations? Avez-vous le sentiment que son discours a évolué?
Non, pas vraiment, puisque Tommy Robinson se montre quand même comme un personnage extrêmement ferme. Hein, voilà, il reste sur ses positions. Après, il sait très bien que, j'ai envie de dire, pour plaire entre guillemets à l'establishment, eh bien effectivement, il faut un peu se lisser, mais. Honnêtement, de ce qu'il disait, il était toujours dans un désir d'une dynamique toujours plus importante. Il l'appelait très fermement au rassemblement. Il n'avait pas forcément... Enfin, sa ligne est toujours extrêmement métapolitique en réalité. Hein. Enfin, voilà, les revendications, elles sont évidemment très virulentes envers Keir Starmer. Hein. Keir Starmer, évidemment, encore une fois, s'est pris de grosses, si j'ose dire, très peu... Enfin, il s'est pris très peu de compliments, hein, de la part de Tommy Robinson et de la part du peuple anglais. rappeler. Hein,
nous sommes étonnés.
Voilà, le slogan un peu scandé dans l'an, c'était Keir Starmer is a wanker. Alors wanker, chers auditeurs, je vous laisse le plaisir d'aller voir la traduction. Le mot est pas très très, si j'ose dire, très flatteur. Donc voilà, mais
allez,
disons
on va le dire, ça veut dire branleur. Voilà.
Oui, voilà, Keir Starmer est un branleur. Voilà, donc c'était ce qui était scandé dans les rues londoniennes. Et voilà, donc le message était extrêmement clair. Les Anglais sont de plus en plus nombreux à se rendre à ce genre de mobilisation. Puis dans un discours d'ailleurs que Franck va nous passer dans quelques instants, Tommy Robinson revenait justement sur l'évolution, si j'ose dire, de ces mobilisations. On l'écoute tout de suite.
Le plus grand événement de l'histoire britannique.
There is a spiritual and cultural awakening happening right now.
Voilà, donc il parle d'un éveil spirituel et culturel. Et surtout, il revient donc sur Telford. En 3 ans, est-ce que Tommy Robinson a progressé dans l'opinion anglaise? Est-ce qu'il est toujours considéré comme un hooligan transformé en journaliste, en homme politique? Ou au contraire, est-ce qu'il a réussi à se dédiaboliser lui aussi?
Alors, se dédiaboliser, je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Ce qui est sûr, c'est qu'il fédère de plus en plus. Hein, voilà, je veux dire, les idées, dans tous les cas, de droite, les idées patriotes montent en flèche au Royaume-Uni. Hein, les résultats des élections locales le montrent de manière assez allègre, si j'ose dire. Donc oui, Tommy Robinson ne s'est pas véritablement dédiabolisé. Simplement, les Anglais sont de plus en plus d'accord avec lui, simplement parce qu'ils constatent le réel, puisqu'ils vivent dedans. Voilà, la réalité, c'est surtout... C'est surtout celle-ci. Il mettait évidemment l'accent sur ce nombre de personnes qui, à l'origine, étaient plus ou moins moindres et qui, aujourd'hui, est évidemment démentiel. Enfin, il parlait de 40 millions de personnes qui, aujourd'hui, regardaient le direct. Donc, dans le monde entier, c'est quand même absolument majestueux ou, en tout cas, incroyable, impressionnant. Donc voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que Tommy Robinson se montre comme un véritable leader de son mouvement, bien qu'il est quand même très peu dans une dimension extrêmement politique d'un point de vue institutionnel. Voilà, j'ai pas l'impression que Tommy Robinson prétend à devenir demain le Premier ministre britannique. J'ai l'impression qu'il a quand même toujours cette fibre militante en lui qui fait qu'il restera, en tout cas peut-être qu'il nous dira l'inverse dans quelques temps, hein, voilà, on verra, mais en tout cas il est vraiment, il a un message qui est vraiment militant et je pense qu'il compte rester sur cette ligne-là et ne pas vraiment s'orienter vers une dimension purement politique au sens du terme.
Il préfère influencer la politique plutôt que d'en faire d'une certaine manière. Keir Starmer a bien sûr qui lui fait de la politique avec le succès qu'on connaît, avec le courage qu'on connaît et avec ce soutien populaire indéfectible. Je crois qu'il est au plus bas dans les sondages. Enfin, oui. Il est toujours un peu plus haut que Macron, mais c'est pas compliqué. On se retrouve avec un Premier ministre qui a critiqué bien évidemment cette manifestation, qui a critiqué ses participants en expliquant que c'était un ramassis de misérables et d'extrêmes droitistes. En même temps, donc, vous l'avez souligné, le Royaume-Uni a l'air de peu à peu se rendre compte que la société multiculturelle et multiethnique vantée par Keir Starmer, vous vous souvenez de Xavier Van Lierde qui nous expliquait qu'il y avait même les ministères qui étaient en train d'expliquer qu'il fallait déblanchiser la campagne anglaise et faire en sorte que les chiens soient tenus en laisse pour éviter que les nouveaux arrivants dans le Somerset soient choqués par des chiens en liberté. On a l'impression donc, que la société anglaise, elle, bascule de plus en plus dans le rejet en fait de ce multiculturalisme en désignant la religion musulmane et ses fidèles comme étant le principal danger. Peut-on considérer que Nigel Farage bénéficie de Tommy Robinson ou au contraire, si Tommy Robinson veut être un influenceur, est-ce que les partis de droite continuent à le maintenir à bout de gaffe?
Non, moi je pense que Tommy Robinson est un petit peu le fer de lance de l'électorat de Nigel Farage, parce que je ne pense pas demain que Nigel Farage pourrait réunir autant de monde, bien que la plupart soient évidemment d'accord avec ses idées. Après voilà, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est très britannique ce genre de démonstration. C'est très folklorique, les Anglais sont toujours un petit peu dans le m'as-tu vu, si j'ose dire, très, très outrancier. Donc voilà, ils aiment agiter leur drapeau, ils aiment s'habiller des couleurs britanniques de haut en bas. Voilà, il y avait aussi une dimension qui était beaucoup plus festive. Voilà, des gens qui boivent des bières dès 8h du matin. Enfin, je veux dire, il y a quand même toute une culture autour de ce genre de démonstration, même si ça veut dire quand même quelque chose, puisque je veux dire, il y a de plus en plus de monde. Donc c'est quand même pas pour rien. Puis quand la foule entière explique que Keir Starmer is a wanker, effectivement, on sent qu'il y a un certain désamour qui est de plus en plus frappant et de plus en plus grand. Voilà, c'est le cas de le dire. Mais non, pour le coup, Nigel Farage, je pense, a tout intérêt à ce que Tommy Robinson soit dans la fenêtre d'Overton, puisque c'est le seul aujourd'hui, le seul patriote, le seul militant qui a une force de frappe absolument incroyable et qui peut réunir autant de monde. Après, on voit qu'il se tire quand même pas mal dans les pattes. Bon, ça, je pense que c'est plutôt pour peut-être des questions d'ego ou quoi. Le plus important, je pense, pour le Royaume-Uni, c'est que de plus en plus de monde soit en désaccord avec l'immigration et le disent. Voilà, ça serait bien d'ailleurs que les Français aient le même courage, hein, c'est clair. Même si c'est, je pense, malheureusement, pas demain la veille qu'on verra de telles démonstrations en France. Après, on peut se réjouir que ça existe déjà chez nos voisins anglais. Mais effectivement, je pense que les deux, finalement, sont utiles l'un à l'autre pour des raisons différentes. Il y avait d'ailleurs dans la foule aussi le parti Restore Britain, qui est un parti carrément pro-remigration et qui lui, pour le coup, faisait partie aussi du cortège, qui ont d'ailleurs fait des résultats tout à fait honorables aux élections locales, pendant que Keir Starmer, lui, a perdu près de 1000 communes. C'est quand même absolument grand. Hein. Enfin, voilà, personne ne s'attendait. Enfin, si, je veux dire, il y avait de plus en plus de monde qui était en désaccord avec lui, même au sein de ses propres ministres. Il y a quand même 80 députés qui ont demandé la démission de Keir Starmer. D'ailleurs, c'est dans les tuyaux.
80 députés du Labour.
Oui, voilà, du Labour Party, évidemment, qui ont demandé sa démission. Donc c'est quand même, je veux dire, le clivage est même interne, hein. Il y a un certain désamour même au sein de son propre camp. Donc voilà, à voir si Keir Starmer démissionne dans les prochains jours, puisque c'est dans les tuyaux, hein. Il y a de plus en plus d'informations qui circulent sur Internet, ça agite la toile et aussi la presse britannique et la presse européenne plus largement. Donc est-ce que la mobilisation de Tommy Robinson sera un petit peu le levier de la démission de Keir Starmer ? Eh bien, affaire à suivre.
Sur cette démission, évidemment, affaire à suivre, sur la manière dont Tommy Robinson va ou non influencer sur la politique britannique, on verra bien. C'est surtout ce thème de la remigration qui s'installe de plus en plus, vous l'avez dit, au sein du discours populaire politique. Vous partez d'ailleurs à la fin de ce mois dans un autre pays où il va y avoir une autre manifestation dédiée à la remigration.
Tout à fait, ça sera le sommet de la remigration qui se déroulera à Porto, au Portugal, et qui réunira un petit peu les têtes pensantes, si j'ose dire, européennes, qui prônent cette solution politique. Donc ça sera un grand rassemblement patriote une fois de plus. Ça ne sera pas un défilé dans les rues, ça sera plus comme une énorme conférence, un petit peu comparable peut-être au CIPAC à Budapest. D'ailleurs, notre journaliste Alexandre Galzien y était l'année dernière, me semble-t-il. Et voilà, c'est une grosse conférence plutôt basé sur la dimension un peu plus intellectuelle, un peu plus métapolitique. Voilà, c'est pas vraiment une démonstration de rue, mais l'intérêt est tout autant important.
Donc à Porto le 30 mai, il y aura sans doute Martin Selner, l'Autrichien que nous avons reçu, que vous avez interviewé, Jean-Yves Le Gallou pour la France.
Tout à fait.
Voilà, et qui d'autre ?
Alors, il y aura justement donc Eva, hein, puisque Eva n'est pas encore interdite du Portugal, donc elle sera présente. Puis il y a aussi pas mal d'invités surprises. On n'a pas encore exactement tous les noms, mais des porte-parole venus de toute l'Europe. J'étais à Milan l'an dernier pour le premier, qui était un beau succès, malgré la pression antifa qui était quand même assez... assez grandiose, hein, c'est le cas de le dire, mais bon, tout s'est bien déroulé, donc espérons qu'à Porto, ça soit la même chose. En tout cas, vous aurez de belles images sur les réseaux sociaux, chers auditeurs, et aussi un reportage à la clé, évidemment.
Parfait. Eh bien, merci beaucoup Maëlys Clauzel, et à très bientôt sur les ondes de Radio Courtoisie, demain par exemple.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, avec Richard de Sèze.
Chers amis, dans quelques minutes, nous recevrons Régis Le Sommier pour parler de Chine. Juste avant, nous parlerons bien sûr de la crise énergétique avec, Alexandre Allégret-Pilot. Mais tout de suite, un rappel des titres de l'actualité.
Le parquet de Paris enquête désormais sur des agressions sexuelles sur enfants et violences dans 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires et une dizaine de crèches parisiennes. Un chiffre considérable confirmé ce dimanche par la procureure de Paris, Laure Bécuau. La brigade des mineurs est débordée avec un nombre considérable de dossiers en attente selon la procureure. Il était temps de s'en rendre compte. Gérald Darmanin se rend aujourd'hui en Algérie pour tenter de relancer la coopération judiciaire avec le régime de Tebboune. Sa parade a pour but d'obtenir quelques extraditions et montrer qu'il sait encore faire avancer les choses. À force de vouloir préserver à tout prix la relation avec Alger, c'est encore et toujours la France qui donne le sentiment de devoir s'excuser en permanence. Alors que le pape confirme sa venue fin septembre en France, à Issoire, une école catholique a été visée par des tags anti-chrétiens dans la nuit de vendredi à samedi. Sur les murs de l'institution Sévigné-Saint-Louis, des inscriptions ouvertement signées Antifa indiquent ni un raciste ou encore une référence vulgaire vis-à-vis du pape. Il ne fait guère doute que ces dégradations visent directement l'initiative chrétienne et patrimoniale de l'école et ses restaurations. Et nous célébrons en ce 18 mai Saint-Éric, Dioscor, Sainte Fanny, Sainte Euphrasie et Sainte Claudia.
Sainte Claudia, eh bien, merci beaucoup, Magda.
Ligne droite.
Et dans un instant, avec Alexandre Allégret-Pilot, nous parlerons du prix de l'essence, de la crise énergétique et des moyens d'en sortir.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Ligne droite, débattons-en.
Et donc nous allons débattre avec Alexandre Allégret-Pilot, député UDR de la 5e circonscription du Gard. Bonjour monsieur.
Bonjour, est-ce que vous voyez bien ?
On vous voit, on vous entend, c'est voilà, le miracle de la technologie.
Eh bien super, ça fonctionne.
Alors, le prix de l'essence a atteint un petit, est au plus haut en France depuis le début du conflit, on ne peut pas le dire autrement. Voilà, donc nous sommes avec le litre de SP95 à 2,46 € et le gazole est à 2,14 €. Donc on n'a jamais eu une essence aussi chère depuis le début du conflit, qui dure maintenant depuis plus de 2 mois, et le gouvernement a l'air d'être bien à la peine.
Absolument. On retrouve toujours le même sujet quand même, qui est un sujet double. Le premier, c'est un sujet fiscal. Et puis le deuxième, c'est un sujet de dépendance à la fois sectorielle, mais aussi géographique dans nos importations. Puisque tout ça est affecté, comme vous l'avez dit, par la crise qui frappe le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un quart du pétrole mondial. Donc on est très affecté là-dessus. Mais au-delà de ça, quand on a naturellement environ 55% de taxation diverses et variées sur le produit en question, dont une partie qui est en pourcentage et donc qui réagit proportionnellement aux hausses de prix, vous avez la double peine pour le consommateur, en réalité, et donc pour le ménage.
Alors, cette taxation à 55%, c'est une vache sacrée, il est interdit d'y toucher. Marine Le Pen et d'autres ont proposé qu'on baisse la taxation, et c'est le moment de rappeler que c'est une taxation qui est plus forte que celle que l'Union européenne préconise. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il de baisser les taxes et explique-t-il que c'est une mauvaise idée ?
Le gouvernement, alors, sur les arguments du gouvernement, il y a plusieurs éléments. Premièrement, il vous explique qu'il découvre, c'est intéressant, il découvre le concept de courbe de l'affaire quand ça l'arrange. C'est-à-dire qu'il nous explique qu'au bout d'un moment, il y a une certaine élasticité des prix qu'on peut retrouver et que donc les gens ajustent leur consommation. et que en réalité la recette fiscale décroît à mesure que les prix augmentent. C'est vrai qu'il applique ce raisonnement-là à l'ensemble de la fiscalité française et qu'il se rend compte qu'en réalité, bah, peut-être qu'en baissant la fiscalité, enfin le taux, on peut augmenter les recettes au global. Ça, je pense que ça le dépasse. Donc, il vous explique qu'en fait, le revenu n'augmente pas, le revenu pour l'État n'augmente pas. Et que donc, il ne peut pas abaisser le taux, ce qui est faux. Et le point qui est relativement intéressant là-dessus, c'est de se dire que l'État français, par rapport aux autres États européens, est dans une situation de dépendance, en réalité, à la TICPE, à la TVA, sur les produits pétroliers, puisque ça représente 1% du PIB en revenus pour l'État. Si vous regardez,
oui,
si vous prenez une moyenne européenne, on est plutôt autour de 0,85-0,9. Donc nous, en France, on a certaines dépendances, et quand vous regardez l'état de nos finances publiques, eh bien l'État, le gouvernement se dit qu'il ne peut pas s'en passer. C'est mis lui-même dans cette situation, si vous voulez. En même temps, il vous dit qu'il ne faut absolument sortir de la dépendance des hydrocarbures. En même temps, lui-même est le plus grand dépendant aux hydrocarbures de notre pays, pour financer son train de vie.
Alors, le gouvernement explique que puisque les gens ont ajusté leur consommation, le revenu étatique ne bouge pas, et donc ce serait une raison de ne pas changer, puisque voilà, il n'y a pas plus d'impôts prélevés. Mais évidemment, il oublie dans son équation de signifier que si les gens ont ajusté leur consommation, ça signifie juste qu'ils sont obligés de se déplacer moins, qu'ils sont obligés de déployer des trésors d'imagination pour organiser du covoiturage, etc. Autrement dit, que l'ensemble de la population est impactée très directement dans sa liberté de circuler, dans sa manière de s'organiser, et que sa volonté de ne pas toucher aux revenus de l'État est en fait une manière de reporter un ennui supplémentaire, une contrainte supplémentaire sur l'ensemble des foyers.
Vraiment. Et puis deuxièmement, il y a une certaine hypocrisie parce que l'État regarde ici une donnée macro qui, comme je vous le disais, n'est pas tout à fait claire non plus, hein, sur le fait que la recette fiscale n'augmente pas du tout. Données macro, il ne regarde pas les données par segment, puisque vous avez, prenez une infirmière libérale, qu'elle le veuille ou non, elle va consommer en volume autant. Et donc, elle va dépenser davantage. Alors, peut-être que celui que certains vont pouvoir rogner sur les loisirs, mais que d'autres ne pourront pas.
Yeah.
Et puis vous avez d'autres personnes qui vont passer par des moyens de transport de substitution, qui vont être très laborieux pour eux, qui vont coûter en fait différemment, qui ne vont pas être rentrés en comptabilité nationale de la même façon, mais qui vont être dépensés aussi, hein, qui vont représenter de l'argent dépensé pour ces Français.
Ouais, c'est plus de temps dépensé, donc moins d'heures travaillées. Il y a aussi des populations qui sont directement concernées par ce refus de toucher au prix du carburant, c'est par exemple les marins-pêcheurs. Donc le fait d'aller pêcher est devenu prohibitif. C'est aussi certains agriculteurs qui, face à l'explosion du gazole agricole, aussi se demandent, pour certains, s'ils vont semer cette année. Et d'ailleurs, ils y ont déjà renoncé pour une partie d'entre eux.
Alors sur la partie agricole, c'est moins un sujet fiscalité qu'un sujet prix dans l'ensemble. Et là, ça montre qu'il y a une réflexion qu'on doit avoir sur différents plans vis-à-vis de cette dépendance aux hydrocarbures. Il y a une dimension fiscale, elle est évidente. Puisque ne serait-ce que quand on se compare à nos voisins, on est bien plus dépendant fiscalement au niveau budgétaire pour l'État. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, on a aussi une réflexion peut-être plus large à avoir, qui est celle de la constitution des stocks stratégiques, qui pourrait être élargie à la notion de non stratégique en fait, aussi, si vous voulez. Une notion de lissage des prix, qui peut être utile. Troisième point, et c'est encore d'un point de vue fiscal, ça, c'est quelque chose qui a été utilisé sous le gouvernement Jospin entre 2000 et 2002, mais par le manque de rigueur et de discipline de ce gouvernement, et ben, ils n'ont pas réussi à la maintenir, c'est la TICPE flottante, où là, justement, on ajuste, on pourrait ajuster cette fiscalité en fonction du cours. Mais ça nécessite une certaine rigueur, parce qu'on a du mal, en fait, à renoncer à de la recette, quand on est dépendant des finances publiques comme on l'est nous. Ça, c'est un troisième élément. Et puis, quatrième élément, il faut pas oublier que le problème principal, c'est un problème au-delà de la dimension fiscale, c'est quand même un choc exogène à la France, qu'il y a notre dépendance au détroit d'Ormuz, et que depuis la loi Hulot de 2017, en France, on s'est interdit d'explorer et d'exploiter les hydrocarbures de notre sous-sol. Donc on se met nous-mêmes dans cette dépendance-là. La loi Hulot nous a laissé avec une dépendance inchangée, mais avec une facture qui augmente en réalité.
Alors, si vous permettez, Alexandre Allégret-Pilot, nous reviendrons sur la loi Hulot un peu plus tard. Restons sur l'une de vos idées que vous venez d'exprimer, qui est par exemple le fait de repenser le stockage stratégique. Il y a en France un stockage stratégique, Emmanuel Macron en a parlé au début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, en expliquant qu'il y avait des stocks stratégiques, qu'on pouvait les débloquer, que ces stocks stratégiques permettraient d'absorber en partie le choc pétrolier. Bon, ça n'a pas été le cas. Quand vous dites qu'on pourrait élargir la notion de stockage stratégique, c'est-à-dire le fait de garder tous les sens dont on a besoin pour faire marcher le pays et notamment les forces armées, et de l'élargir à un stockage non stratégique, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, il y a un rapport qui a été rendu par mon collègue Bartholomé Lenoir et Jean-Philippe Tanguy à ce sujet. Pour plus de détails, vous pourrez aller vérifier ça, mais il y a plusieurs éléments. Premièrement, le stock stratégique, aujourd'hui, par définition, c'est un stock stratégique où il y a le blocage quasi militaire du pays. Donc, son utilisation est extrêmement restreinte. Deuxièmement, il est actuellement quand même, c'est plutôt un outil d'enrichissement des pétroliers qu'un outil de sécurité nationale, dans la mesure où la vente de ce prix se fait au prix du marché et pas au prix moyen de constitution. Vous avez plusieurs façons comptables de vendre le pétrole que vous avez stocké, mais si vous le vendez au prix du marché à l'instant T, en fait, vous, d'un point de vue budgétaire, vous n'améliorez pas la situation des Français. Vous avez juste assez de matière et vous n'avez pas un prix qui est préférable et vous ne baissez pas le prix moyen. Donc, je pense qu'il y a peut-être une opportunité de réfléchir à un système constitué à élargir la quantité des ressources considérées, mais aussi d'avoir un pricing, entre guillemets, une mise à prix, qui soit une mise à prix de coût de constitution plus une marge.
Pour le dire autrement, quand on achète à 1,70€, on revend à 1,71€ au lieu de revendre à 2,14€.
C'est un peu l'idée. Alors, c'est un système qui n'est pas un système extrêmement libéral. Donc, vous savez, dans l'UDR, on a une fibre très libérale. Pour autant, là, on a un sujet de dépendance. On est sur un sujet de dépendance. Et quand on est aussi exposé, c'est une question aussi de gestion d'exposition aux fluctuations du prix. Et donc, on a tout intérêt à lisser davantage cela. La question, c'est comme si vous prenez une assurance, si vous voulez, dans quelle mesure vous la prenez large, elle vous coûte cher quand tout va bien, pour vous protéger quand tout va mal. Là, il faut juste bien calibrer ça. Mais ça ne me semble pas totalement délirant comme approche, vous voyez.
Alors, vous parliez des agriculteurs. Je vous avais posé cette question, notamment du prix du gazole agricole. Vous avez expliqué à juste titre que la question était plus complexe que ça. Et notamment, dans le cas du domaine agricole, on se retrouve avec d'autres conséquences du blocage du détroit d'Ormuz, qui est en fait l'enchérissement très conséquent des engrais azotés, entre autres.
Oui. Absolument. Et en sachant qu'on a des propositions actuellement qui viennent à l'Assemblée pour interdire les engrais azotés. En parallèle de tout ça, si vous voulez. En France, on a la capacité à se mettre des doubles, des triples, des quadruples peines qui sont magnifiques. Et donc, quand vous faites ça, vous n'avez plus d'activité agricole sur le territoire, vous augmentez votre dépendance de tous les côtés. C'est-à-dire, non seulement vous devenez dépendant des hydrocarbures pour vos transports, mais vous devenez par ailleurs dépendant pour toute votre alimentation des importations également.
Alors, ces engrais azotés donc, transitent sont produits majoritairement d'ailleurs dans ces pays du Moyen-Orient. Évidemment, ils ne peuvent pas transiter. Ça enchérit considérablement le coût le coût d'exploitation du domaine agricole. Ça nous ramène aussi, tout aussi invinciblement, à cette fameuse loi Hulot. Il a été décidé donc en 2017 qu'on n'exploiterait plus d'hydrocarbures en France. Et malgré tout, en janvier 2026, un sénateur a réussi à faire voter une loi où on desserrait un peu cette loi Hulot, c'est-à-dire on abroge les interdictions de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures dans les territoires ultramarins uniquement. C'est-à-dire, on se retrouve avec peut-être, et là pour le moment la loi est déposée dans la corbeille de l'Assemblée nationale qui n'en fait rien, donc depuis janvier 2026, on pourrait mieux exploiter les ressources pétrolières ultramarines et notamment tout ce qui se passe du côté du Guyana qui exploite des champs pétroliers. La France a un accès aux mêmes champs pétroliers et pour le moment n'en profite pas du tout.
Absolument. Donc là, c'est, si vous voulez, c'est typique de l'hypocrisie pseudo-écologiste qu'on retrouve souvent. On fait polluer par ailleurs et nous, on se donne bonne conscience. Pour autant, à un moment, on finance tout ça par de l'impôt alors qu'on ne produit plus rien chez nous. Donc, on se met dans une situation de dépendance accrue qui nous fragilise. Et au bout d'un moment, on n'est plus en mesure d'imposer nos décisions et donc on se les fait imposer par le reste du monde. Et donc, on a perdu. C'est typique. Par contre, on peut faire la fête, se donner bonne conscience, prendre des petits fours à la croisette et tout va bien à l'instant T. Ça permet vraiment de faire les malins. Mais pour autant, à relativement court terme, on se rend compte qu'on s'est tiré une balle dans le pied énorme. Donc ça, c'est typiquement le cas de cette loi Hulot. Et donc, effectivement, une proposition de loi a été déposée par un collègue sénateur pour permettre cette exploration au sein des Outre-mer. À titre personnel, je ne considère pas qu'il y ait un traitement différencié qui doit exister entre les Outre-mer et le reste du territoire français. Donc j'ai déposé une proposition de loi. Je dépose d'ailleurs une proposition de loi aujourd'hui qui a été co-signée par plusieurs députés UDR et RN pour permettre cette exploration sur l'ensemble du territoire français. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un traitement, encore une fois, différencié entre les Outre-mer et le reste du territoire français à ce titre. Et mais typiquement, le cœur du problème se trouve très certainement aux alentours de la Guyane, où on a, comme d'habitude, on donne à nos voisins ce que nous, on pourrait exploiter. C'est le cas, vous savez, c'est le cas de l'hydrocarbure, mais c'est aussi le cas de l'or. Hein. Ça, c'est encore un autre sujet en Guyane, mais c'est typiquement ces problématiques qui se posent.
Alors, cette proposition de loi que vous avez déposée pour dire qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les territoires ultramarins qui puissent exploiter les hydrocarbures, en fait, c'est une proposition de loi qui tourne autour de l'exploitation de toutes les richesses minières, de toutes les richesses en matière d'hydrocarbures, de tout le sous-sol sur tout le territoire français.
Absolument. Vous savez, je suis député du Gard dans une circonscription minière. Ou enseignement minière qui a vécu la fermeture des mines, qui constitue quelque chose socialement, économiquement terrible, mais aussi écologiquement terrible, puisque les fermetures des mines n'ont pas été suivies des adaptations environnementales nécessaires. Mais quand vous importez, par exemple, une quantité considérable d'hydrocarbures du Kazakhstan, de l'Angola, même de l'Algérie, vous pouvez vous douter que les conditions environnementales et sociales d'extraction et même d'exploration ne sont pas les mêmes que celles que vous pourriez avoir en Europe et a fortiori en France, métropolitaine ou d'outre-mer. Donc, quand on est responsable, quand on est un citoyen de gauche responsable, on se dit autant faire bien les choses et donc les faire chez moi. Et quand on est un citoyen de droite responsable, en plus de cela, on se dit autant donner de l'activité aux Français.
Alors, cette richesse minière, donc c'est dans les territoires d'outre-mer, on a longtemps parlé des nodules polymétalliques, bon là c'est un peu abandonné, il y a effectivement des gisements d'hydrocarbures qui sont juste à côté des départements français d'outre-mer, bon, on ne les exploite pas, il y a des gisements d'hydrogène en France, dans le Nord, il y a des gisements miniers possibles. Écologiquement, on est aujourd'hui capable d'exploiter des mines, d'exploiter du gaz sans construire des installations effroyablement polluantes. La recherche industrielle a fait d'énormes progrès. Les Italiens nous ont montré comment avoir des carrières mobiles rapidement démontables. Autrement dit, toutes les objections écologiques à ce type d'exploitation ont en fait été levées et il y a les exemples dans le monde entier d'exploitation vertueuse.
Alors, par définition, dès lors qu'on exploite, dès lors qu'on a une activité, on va avoir une forme de pollution, quelle qu'elle soit. Alors, elle peut être plus ou moins importante. Donc, effectivement, on a eu des progrès qui sont considérables en la matière. Pour autant, vous allez toujours avoir une forme de pollution ou de désagrément, quel qu'il soit. Mais au-delà de ça, dès lors qu'on apporte un produit qui est produit lui-même, qui est généré dans des conditions qui sont encore pires, bien pires, vous ne pouvez pas ne pas être hypocrite en disant qu'on n'en veut pas et qu'à cacher ce sein que je ne veux pas voir, si vous voulez, mais que j'aime bien toucher de temps en temps. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et ça, je pense que ce n'est pas acceptable, surtout quand on a une approche hautement moralisatrice. Moi, je vous propose une approche très stratégique, en fait, hein, qui se dit, je ne veux pas avoir une dépendance sur des matières en particulier. Je veux dire, la crise du Covid l'a montré. Hein. Quand tout va bien, on ne s'en rend pas compte, mais dès que ça se sert un petit peu, bon là, on le voit sur la crise du pétrole, dès que ça sert un petit peu, tout le monde a peur, tout le monde a mal. Donc, en termes de dépendance, on ne peut pas se le permettre, mais au-delà de cette dépendance-là, c'est aussi des rapports de force économique qui se créent et qui s'inversent. Et la puissance économique de la France, c'est cette puissance qui lui permettra, si elle la récupère, d'avoir ce magistère moral que veut la gauche, en fait. Parce que si vous ne pouvez pas l'imposer, eh bien, il ne sert à rien, ce magistère moral, si ce n'est à vous tirer une balle dans le pied en permanence et à vous sacrifier pour rien du tout. Quand vous représentez 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, vous pouvez vous sacrifier, ça ne change rien.
Bah, effectivement, sacrifier la France ne changera rien à rien. Stéphane Séjourné, au Parlement européen, non, pardon, à la Commission européenne, est censé sécuriser les approvisionnements en minerais rares, par exemple. Il en parle depuis plusieurs mois, il en parle depuis plus d'un an. À chaque fois qu'il il est sur le point de réussir à sécuriser un approvisionnement, généralement, les Américains ou les Chinois arrivent, font une offre supérieure à celle de l'Union européenne et raflent la production de tel ou tel pays, de telle ou telle mine. Est-ce que nous sommes condamnés, si j'ose dire, à n'avoir aucun secours de la part de l'Union européenne en matière, justement, de souveraineté industrielle à travers les matières premières?
Je pense que là, il faut... toi, l'Union européenne t'aidera, hein. Donc là-dessus, typiquement, on voit que la France a raté le coche avec ses partenaires africains. Typiquement, hein, là-dessus, on a un réseau diplomatique qui a été extrêmement puissant et qui est encore relativement puissant dans le monde, qui est parmi les premiers en termes de volume. Mais en termes d'effet, vous voyez, l'indicateur d'effort, si vous regardez le nombre de personnel que vous avez, c'est très très important. Maintenant, si vous regardez les résultats obtenus, c'est quand même pas génial, parce qu'il y a aussi, entre guillemets, ce French bashing qu'on a nous-mêmes, quand je dis nous, c'est quand certains Français ont eux-mêmes entretenu en Afrique, qui font qu'en fait, on devrait avoir en réalité une posture privilégiée, des relations privilégiées avec l'Afrique, qu'on ne les a plus du tout, c'est même l'inverse, quoi.
Votre proposition de loi sur l'exploitation, notamment de reprendre l'exploitation minière en France, quels obstacles concrets va-t-elle rencontrer?
Alors, On a des obstacles qui sont des obstacles de rentabilité, hein, parce que l'exploitation ne sont pas forcément... On a eu une exploitation qui a duré plus de 100-150 ans, donc après, l'état des mines n'est pas le même. Ça, c'est le premier point, qui est le point quand même principal. Et puis après, on a un enjeu qui est celui d'alignement des intérêts. En France, on est une société, on est relativement sensible aux nuisances, et c'est normal, c'est une société qui est peut-être un petit peu vieillissante, qui est un peu moins sur la conquête, hein, qui est un peu plus sur la protection. Donc, il faut rééquilibrer aussi un petit peu cela. Et donc, la question, c'est comment on aligne les intérêts quand on exploite une mine et que ça peut créer des désagréments. Et pour cela, dans ma proposition de loi, je prévois notamment un fléchage des retombées économiques sur les communes affectées, le cas échéant. Et puis, tout cela est soumis naturellement à l'initiative privée. Et donc, c'est les propriétaires privés qui doivent lancer cela, en fait, hein.
Alors, les propriétaires privés pourraient relancer l'exploitation des mines pourvu qu'on a modifié la loi, même qu'on la modifie. Est-ce que cela rentre dans le cadre de cette méthode Notre-Dame vantée par le gouvernement qui est prêt à voler au secours de l'initiative privée d'une manière très précise en fonction soit d'affinité politique, soit de copinage ministériel? Je leur fais un procès d'intention, ça me paraît légitime. Peut-on penser que l'administration, une fois le cadre législatif desserré, collaborera pleinement à toutes ces initiatives privées, ou est-ce qu'on va se retrouver comme d'habitude avec des délais de 3 à 5 ans pour mettre en place une industrie, là où chez nos amis chinois c'est moins d'un an, là où chez les Allemands c'est moins de 2 ans, etc.
Vous le savez, on a eu deux exceptions en France sur les peut-être 40 dernières années, hein. On a eu Notre-Dame et puis on a eu les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est les deux seuls cas où on avait vraiment une exception administrative, réglementaire, législative même, hein, sur Paris 2024. Vous avez une loi olympique, hein, qui facilite tout ça, et qui encadrait, ou qui désencadrait plutôt, l'initiative privée et même publique en réalité, hein, parce que les deux sont affectés, et ça a été très très efficace. Donc si vous voulez, ça reste l'exception, la norme n'a pas changé. Yep. Et à chaque fois que vous avez une loi de simplification, un grand choc de simplification, bah, tout ce qu'on voit, c'est le mot choc de simplification, hein. Tout le reste, dans tous les cas, la sédimentation, puisqu'on parle de géologie, la sédimentation législative et réglementaire ne s'arrête jamais. Et il y a une proposition qui avait été formulée il y a quelques années par un candidat à la présidentielle qui était celle de se dire qu'il fallait peut-être couper le temps législatif. La moitié du temps, on peut créer de nouvelles choses, mais l'autre moitié, par contre, on nettoie. Vous voyez, par période. Tant que ce n'est pas nettoyé, bah, ça, c'est une période qui est dédiée au nettoyage, l'appurement, entre guillemets, de cette sédimentation législative et réglementaire.
C'est pas une mauvaise idée, et là ça n'a pas été repris. Est-ce que vous inscrivez, vous, Alexandre Agrépilo, mais d'une manière plus générale, est-ce que l'UDR va poursuit dans cette voie? Est-ce que ça fait partie de votre cahier des charges pour la présidentielle, que le candidat que vous soutiendrez soit dans cette optique de simplification de la vie administrative?
Ah bah, nécessairement, nous, on est à l'UDR dans une optique de libération des énergies individuelles, la liberté d'entreprendre et aussi d'indépendance du pays, de souveraineté. Si vous voulez être souverain, il faut pouvoir avoir un certain dynamisme. Donc ça, c'est naturellement, et puis on est parti relativement, enfin, très libéral, donc on veut pouvoir vraiment alléger l'implication de l'État, parce qu'on pense que l'État n'est légitime que lorsqu'il est meilleur que l'initiative privée, et qu'il est en fait rarement meilleur que l'initiative privée.
Alors, l'État, effectivement, doit être meilleur que l'initiative privée quand il décide de se substituer au secteur privé. Dans le cas d'une crise comme celle que nous vivons, donc on en a parlé au début de l'émission, donc les automobilistes sont pénalisés, toutes les professions qui ont besoin de circuler en voiture sont pénalisées, les agriculteurs, les marins-pêcheurs sont pénalisés. Y a-t-il un moment où, en cas de crise extérieure qui s'impose à la France, effectivement, faute d'une politique souverainiste et d'une politique énergétique intelligente, est-ce qu'il y a un moment où l'État, malgré tout, est légitime à se substituer à l'initiative privée, notamment quand il s'agit d'éviter les faillites, d'éviter l'arrêt économique?
Alors, si vous voulez, ça c'est tout un débat. Hein. En France, on a une approche très interventionniste là-dessus. Moi, je suis bien placé pour le savoir, puisque c'était mon secteur à Bercy. Je m'occupais des restructurations d'entreprises en difficulté et je m'occupais notamment des restructurations de PGE. Et on a vu qu'on a une intervention qui a été très, très massive pendant la crise du Covid. Alors, c'est facile de juger après coup, hein, mais à l'instant T, c'est quand même toujours difficile de savoir quoi faire. Et la France a choisi le côté un petit peu hélicoptère money, comme on dit. Si vous voulez, je distribue un peu d'argent à tout, mais sous la forme de prêts, avec des contreparties assez, assez faibles et avec des conditions même d'attribution très, très légères, ce qui fait que c'était les PGE étaient accessibles à beaucoup, beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises qui étaient elles-mêmes vouées, en fait, indépendamment de la crise, à disparaître. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un stock d'entreprises en difficulté de défaillance qui est historique, hein, et qu'on traîne. Et donc, le travail, entre guillemets, qui est un travail sain de destruction créatrice des entreprises, vous avez forcément un roulement, hein, de création, n'a pas été fait. Donc on se retrouve avec un stock, si vous voulez. Ce qui fait que si on prend une deuxième grosse crise là, le tissu économique français devrait être totalement sclérosé.
Ça me laisse un peu sans voix, parce qu'on a l'impression que la crise, elle est justement, on est en train de la vivre. Selon vous, cette crise pétrolière, donc avec toutes ses implications, puisque donc le détroit d'Ormuz, c'est pas juste le pétrole qui devient plus cher, c'est aussi le flux de marchandises de matières premières qui ne se développe pas, de matières premières ou de matières transformées comme les engrais azotés. Est-ce que c'est un second choc, parce que ça fait déjà 2 mois que ça dure? Toutes les économies sont en train d'expliquer que en fait, les conséquences ne vont pas juste se résoudre s'annihiler dès que le détroit d'Ormuz sera libéré. Est-on en train de vivre ce deuxième choc aux conséquences catastrophiques que vous venez de nous décrire?
Alors, vous savez, j'ai pas de boule de cristal. Je ne pense pas, mais je ne peux pas m'engager là-dessus. Donc, je ne pense pas. Mais typiquement, vous avez une nouvelle crise sanitaire, c'est ce qui va se passer, si c'est ça. C'est ce qui se passerait si vous aviez une nouvelle crise sanitaire. Et puis après, si l'avantage entre guillemets des, enfin c'est pas un avantage, mais sur les crises pétrolières, c'est que on commence à y être habitué. Même si on a pris aucune mesure intelligente, on commence à y être habitué psychologiquement.
Alors, Alexandre Allégret-Pilot, pardonnez ma dernière question, elle n'a rien à voir avec le sujet de l'entretien tel qu'il était initialement prévu. Donc, mais merci d'avoir répondu à toutes nos questions sur l'essence, l'engrais, la loi Hulot. Donc, 2027, c'est déjà demain. Éric Ciotti vient de gagner la mairie de Nice. Quelles sont les ambitions présidentielles de l'UDR?
L'UDR va soutenir son partenaire du RN, puisqu'on est l'union des... On est droite, hein, si vous voulez, donc... C'est ce qu'on va faire à présidentielle.
Donc vous soutenez le Rassemblement national, ça veut dire qu'Éric Ciotti, a priori, ne va pas concourir pour être lui-même sur la ligne de départ de la présidentielle?
Écoutez, vous lui demanderez, mais on a un partenaire...
Si jamais vous pouvez lui dire qu'il est invité en permanence, n'hésitez pas.
Je le ferai. On a une alliance très claire avec le Rassemblement national dans la perspective de redresser le pays. Derrière un candidat très claire qui fait pas débat, en fait.
Et cette élection présidentielle, pour vous, est-ce que c'est l'élection de la dernière chance? Et est-ce que c'est le moment où on va réussir ou pas à commencer à rétablir la souveraineté? Ou malgré tout, cette échéance 2027 n'est-elle qu'une échéance parmi d'autres? Et si on rate 2027, on réussira 2032?
C'est un moment critique, ça c'est sûr. Et ce qui est sûr aussi, c'est que plus on attend, plus il sera dur de nettoyer les écuries de Gias. Et chaque jour qui passe, augmente l'état de dégradation du pays. Ça, c'est certain. Donc, plus on attend, plus ce sera dur. Et là, point où on se trouve, ça va être extrêmement dur. Moi, j'en ai conscience. Ça va être extrêmement dur. On a énormément de travail sur la planche. Ça va être un travail de titan.
Un travail de titan. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Aligré-Pilot, d'être aux côtés des Français pour mener ce travail. Et à très bientôt sur Radio Courtoisie.